Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La persécution est une réalité douloureuse qui touche de nombreux chrétiens à travers le monde. Il est donc pertinent de comprendre ce que la Bible dit à ce sujet. Pour cette raison, nous réfléchirons sur ce thème de la persécution tout au long de cette série d'émissions.
Nous sommes contents d'accueillir Didier sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Didier, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Actuellement, nous étudions quelques récits qui se trouvent dans le livre biblique appelé les Actes des Apôtres. Ce livre relate l'histoire des toutes premières églises, et nous découvrons que les premiers chrétiens ont été rapidement confrontés à la persécution.
La dernière fois, nous avons réfléchi sur les circonstances entourant la mort d'Étienne, le premier chrétien à être tué pour sa foi en Jésus. Qu'allons-nous étudier aujourd'hui?
Souvenez-vous que l'un des témoins qui a approuvé la lapidation d'Étienne était un homme appelé Saul. Nous allons parler de son parcours aujourd'hui, car il est assez extraordinaire.
Que savons-nous donc sur Saul?
Dans le Nouveau Testament, nous apprenons qu'il a reçu une bonne éducation, selon les traditions juives, et que c'était un pharisien. À l'époque, les pharisiens constituaient le parti religieux qui s'opposait avec acharnement à l'Église. Et Saul participait pleinement à cette persécution contre les chrétiens. Écoutons deux extraits du livre des Actes des Apôtres qui attestent sa méchanceté. Le premier est au chapitre 8, verset 3.
Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison.
Nous apprenons que beaucoup de croyants ont déjà fui la ville de Jérusalem. Mais, comme en témoignent les versets 1 et 2 du chapitre 9, cela n'a pas découragé Saul qui continue à les pourchasser.
Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui donna des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem.
Donc Saul était en route pour Damas, avec l'intention d'emprisonner d'autres chrétiennes. Que s'est-il passé ensuite?
Le Christ ressuscité lui est apparu, avant même qu'il n'arrive à Damas. La gloire éblouissante du Seigneur Jésus a aveuglé Saul, et celui-ci a tout à coup reconnu ses erreurs et sa méchanceté. Mais Jésus, au lieu de le châtier, lui a pardonné sa cruauté. Et il l'a chargé d'une mission, celle d'être le témoin de sa résurrection auprès des peuples non-juifs. Saul a reconnu que Jésus est Seigneur, et dès ce moment-là, il s'est soumis à lui pour le suivre et lui obéir. Plus tard, Saul a changé de nom, il est devenu l'apôtre Paul.
Didier, quelles sont les leçons à retenir de cet épisode?
Vous souvenez-vous que Jésus nous a demandé de prier pour nos persécuteurs?
Oui, effectivement, je m'en souviens.
Alors, voyons dans ce grand bouleversement que Saul a vécu, un encouragement à prier pour nos ennemis, à intercéder pour nos persécuteurs. Car Dieu peut agir dans leur vie pour leur faire grâce et pour les transformer entièrement. À vue humaine, qui aurait cru qu'un jour Saul abandonnerait les traditions pharisiennes pour devenir un disciple de Jésus? Avec Dieu, tout est possible. Il peut changer le plus endurci et le plus méchant des cœurs. C'est donc un encouragement à prier.
Mais comment les églises à Damas ont-elles reçu la nouvelle de la conversion de Saul? À leur place, je me serais méfié d'une telle nouvelle.
C'est vrai, Yann. Lorsqu'un grand persécuteur de l'église se convertit, souvent les chrétiens se montrent méfiants. Cette réaction est normale, car l'on peut se demander s'il s'agit d'un piège. Et parfois, il est vrai que des hommes méchants et rusés tendent de tels pièges pour en apprendre plus sur l'identité des chrétiens, afin de mieux pouvoir les harceler et les maltraiter. La prudence est donc la voie de la sagesse. Dans notre cas précis, le Seigneur est apparu dans une vision à un chrétien nommé Ananias. Écoutons la lecture du chapitre 9 du livre des Actes, les versets 10 à 17, pour apprendre ce qui s'est passé.
Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !»«
Oui, Seigneur » répondit-il. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite, et, dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue.
« Mais Seigneur !» répliqua Ananias, « j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoirs que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tout ce qui te prie. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Ananias partit donc, et, arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit,
« Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. »
Merci. Nous constatons qu'Ananias se montre sceptique et méfiant. Il appréhende de rencontrer Saul. Il savait très bien que ce dernier était venu avec l'intention de persécuter les chrétiens. C'est pour cette raison-là que le Seigneur parle à Ananias à travers une vision pour le rassurer et lui faire comprendre que désormais, il n'y a plus de danger. Il le convainc de non seulement accepter Saul, mais aussi de prendre soin de lui. Ananias est pour nous un exemple à suivre, car il écoute Jésus et lui obéit. D'abord, en faisant confiance aux paroles de Jésus et en se soumettant aux instructions de son maître, Ananias surmonte ses propres peurs et ses préjugés. Il prend le risque d'aller voir Saul. Tout comme Jésus fait grâce à Saul, Ananias aussi fait preuve de bonté envers lui. Ananias connaissait-il personnellement des frères et sœurs qui avaient souffert à cause des agissements de Saul ? Probablement que oui. Il lui fallait donc être disposé à pardonner à Saul ses offenses graves, tout comme le Seigneur Jésus lui avait déjà pardonné. Et puis, avez-vous remarqué les premiers mots qu'Ananias adresse à Saul ? Il lui dit « Mon frère ». C'est un signe de plus qu'Ananias accepte Saul et qu'il l'accueille sans réserve au sein de la communauté chrétienne établie à Damas. Enfin, Ananias agit en tant qu'intermédiaire entre Saul et les autres frères et sœurs de l'église de Damas. Eux aussi devaient avoir des réticences concernant les motivations de Saul. Mais Ananias a pu les rassurer. Il a pu favoriser et faciliter l'intégration de Saul dans l'église. Et nous apprenons que ce dernier s'est d'ailleurs rapidement mis à proclamer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus aux habitants de Damas.
Merci Didier. Et comment conclure notre discussion ?
Dieu est puissant. Il peut changer le cœur d'un opposant, d'un ennemi, d'un persécuteur. Mais comment alors intégrer ces derniers au sein de l'Église ? Voilà une question délicate et nous avons besoin de discernement de la part du Seigneur pour savoir si la personne qui dit avoir rencontré Jésus est sincère ou si elle tend un piège dangereux. Oui, il faut user de prudence et chercher par tous les moyens possibles à savoir si une telle personne vit une repentance sincère. Une personne repentie doit aussi faire tout ce qui est en son pouvoir pour gagner la confiance de l'Église. Ceci dit, nous avons aussi besoin d'hommes et de femmes comme Ananias, et nous pouvons apprendre de son exemple. nous devons surmonter nos peurs et nos préjugés pour tendre la main aux ennemis et aux persécuteurs repentis. Nous devons apprendre à pardonner comme Jésus pardonne. Nous devons accepter et accueillir comme frères et sœurs tous ceux qui souhaitent sincèrement intégrer l'Église, quel que soit leur passé.
Merci Didier, et à bientôt. Dans quelques instants, nous donnerons la parole à Antoine, qui va nous faire part d'une courte méditation biblique basée sur la première lettre de l'apôtre Pierre, lettre qu'il a écrite aux chrétiens éprouvés par l'opposition. Cédons d'abord la parole à Sandra pour la lecture de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 12.
Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal. Ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie.
Bonjour, chers amis. Le monde peut s'opposer à l'Église de plusieurs manières. Pierre en évoque une dans le texte lu. Les non-croyants, en effet, peuvent manifester leur opposition aux chrétiens en les calomniant. Les calomnies sont des médisances, des accusations injustes, des fausses rumeurs qu'on fait courir. Ces genres de paroles sont délibérément répandues pour nuire à la réputation de l'Église. C'est difficile à vivre, mais comment se comporter dans un tel contexte? Il ne faut jamais oublier que les gens nous regardent et qu'ils attendent de nous la moindre chute morale pour nous accuser, nous critiquer et faire de nous un sujet de mépris. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, Pierre nous exhorte à persévérer dans notre bonne conduite et dans la pratique de bonnes actions. Autrement dit, ne rendons pas le mal pour le mal et ne sombrons pas dans la même vie dissolue que les non-croyants. Mais aspirons à mener une vie pure et intègre, une vie juste et droite. Trouvons le moyen d'aimer notre prochain et même notre ennemi. Et Jésus peut nous aider dans cette tâche, si nous le lui demandons. En agissant ainsi, les médisances de nos opposants auront moins d'effet, car notre bonne conduite et nos bonnes actions peuvent devenir un outil pour les aider à se remettre en question et les conduire vers la foi en Jésus-Christ. Oui, mes amis, notre conduite et nos actions parlent aussi fort que nos paroles. Il ne faut pas sous-estimer l'influence que notre bon témoignage peut avoir.
Merci Antoine pour cette exhortation importante. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour nous faire part de leurs réflexions sur ce sujet de la persécution.
En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.